Philippe Lazare, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'Ingénico. Nous sommes avec vous au Odo Midcap Forum à Lyon. Vous rencontrez des investisseurs. Alors, vous devez aujourd'hui, je dirais, avoir un bon retour des investisseurs, puisque vous avez relevé vos prévisions, vos perspectives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que clairement, l'activité dans vos différents métiers est là, aujourd'hui?
Alors, l'activité est là et ça résulte de deux phénomènes différents, enfin en tout cas de deux décisions stratégiques différentes. La première, c'est à l'horizon d'il y a maintenant à peu près, exactement en regardant en arrière, il y a 7-8 ans, on a pris la décision de sortir de notre univers traditionnel en termes de géographie pour aller chercher la croissance là où elle est. C'est-à-dire qu'on a fait des acquisitions en Chine, on a pris des parts de marché assez significatives au Brésil, on a pris des parts de marché importantes plus récemment cette fois-ci en Indonésie, on est un acteur en Russie et donc on bénéficie de l'effet entre guillemets « brique », qui ça et là est considéré comme étant moins booster qu'il y a quelques années, mais enfin on se contente quand même de ça, on arrive à vivre avec. Alors ça c'est la première partie. La deuxième partie, la deuxième grande catégorie de raisons qui explique notre croissance, c'est d'abord une politique produit basée sur un operating system unique qui s'appelle Telium, qui résulte de l'acquisition de Sagem Monetel en 2008, qui nous a amené un avantage technologique. Et puis la troisième grande catégorie de décision, c'est notre stratégie multicanale qui s'est traduite par l'acquisition d'EasyCash en Allemagne en 2009 et plus récemment l'acquisition de Dogone, qui est un des leaders en matière de paiement sur Internet en 2000, tout à fait début 2013. Donc c'est la combinaison géographique, gamme de produits, stratégie de positionnement dans l'univers des transactions qui fait aujourd'hui que Ingénico marche bien.
Alors Ingénico, on pourrait dire on est en pleine période de solde, donc il y a beaucoup de gens peut-être qui ne savent pas, qui passent par un terminal de paiement à Ingénico en payant par carte. Qu'est-ce qui a le plus changé justement sur cette technologie? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, quand on utilise ce type de terminal, que voilà, on met sa carte, on fait son code, ça a l'air simple, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en niveau technologique, qui a le plus évolué pour vous?
Alors, ce qui évolue en permanence, c'est les exigences de sécurité. C'est un métier qui est extrêmement normé, c'est-à-dire que la partie visible de l'iceberg, qui est soit un site internet avec une solution de paiement qui peut être brandée au Gone ou d'ailleurs brandée au nom du commerçant lui-même, ou que ce soit à travers les terminaux de paiement dans l'univers physique, ce qui change en permanence, c'est l'exigence de sécurité. C'est-à-dire la capacité à sécuriser une transaction, la capacité à protéger vos données personnelles, vous en tant que porteur de carte, la capacité à protéger le commerçant des éventuelles fraudes. Donc cet univers-là change en permanence. Alors ensuite, ce qui a changé aussi, c'est la capacité à payer avec des cartes sans contact dans un certain nombre de pays. Peu en France, on pense que ça va se développer, mais nos terminaux sont prêts à ça. À payer aussi à travers des terminaux qui sont la transformation d'un smartphone en terminal de paiement. Donc il y a beaucoup d'innovations technologiques, mais les grands fondamentaux de ce métier sont très solides. C'est-à-dire que vous avez des émetteurs de cartes, qui sont des établissements extrêmement solides. Vous avez les consommateurs qui ont une exigence de sécurité. Vous avez les commerçants qui ont eux aussi une exigence de sécurité. Et une autre exigence qui est celle de pouvoir être payé par n'importe quelle carte qui se présente en face d'eux. Et puis vous avez ceux qui font l'acquisition des transactions, c'est-à-dire les banques qui ont aussi un rôle à jouer. Donc beaucoup de changements finalement assez peu visibles du grand public, mais très structurantes, qu'il faut que aussi, c'est une des raisons pour lesquelles Ingénico est devenu un acteur significatif, c'est qu'on sait répondre à ces différents challenges et ambitions.
Alors on pourrait dire qu'aujourd'hui vos principaux revenus viennent de ces terminaux de paiement. Sur la partie justement online, en ligne, on parle aussi de ces soldes, on pourrait dire qu'il y a eu beaucoup aussi de e-commerce qui s'est développé. Sur ce marché-là, vous êtes aussi assez fort justement, parce que là on voit plein d'initiatives, on a l'impression que ça foisonne de nouvelles technologies, nouvelles idées.
Alors, vous avez raison, l'essentiel de nos revenus viennent du hardware, enfin des terminaux de paiement traditionnels. Ceci étant, la partie qui vient d'autre chose que du terminal de paiement représente de l'ordre de 30%. C'est-à-dire que si on ajoute les opérations autour du hardware, la maintenance, etc., plus le downloading, c'est-à-dire le téléchargement de nouveaux applicatifs ou de nouvelles solutions de sécurité sur les terminaux, plus l'activité transactionnelle à proprement parler, donc ils ont grosso modo, EasyCash, plus notre solution France qui s'appelle Axis, plus Ogone qui est notre dernière acquisition, ça représente quand même 20% d'un chiffre d'affaires qui ne cesse de croître. Donc les chiffres, les valeurs absolues des chiffres commencent à être quand même assez significatives. Donc nous, l'essentiel de notre stratégie, aujourd'hui, elle est précisément d'amener aux commerçants des solutions pour pouvoir être payés dans leur propre stratégie multi-channel. Je prends un exemple, vous commencez à faire un achat sur Internet, et puis vous allez le finir dans une boutique. Dans cette boutique, vous allez prendre livraison du produit que vous avez acheté sur Internet. Vous allez vous apercevoir que ce n'était pas exactement ça que vous vouliez. Vous allez vouloir vous faire rembourser, etc. Toute cette complexité qui est, entre guillemets, complètement maîtrisée dans une boutique traditionnelle, elle devient extraordinairement plus compliquée quand vous commencez à faire une transaction sur Internet et que vous la finissez dans l'univers physique, sans même parler de paiement mobile, parce qu'on peut imaginer aussi d'en faire un morceau à la maison avec quelqu'un qui viendrait être payé à domicile. Donc, le positionnement d'Ingenico, c'est un simplificateur pour les solutions de paiement électronique, pour les marchands, voilà, pour faire simple. D'où les différentes acquisitions successives qui nous ont amené les briques technologiques et les savoir-faire qui nous permettent aujourd'hui, on a peut-être l'outrecuidance de penser qu'on est quand même une ou peut-être la seule société à avoir cette couverture et ce spectre-là.
Alors, vous avez parlé en introduction des pays émergents. Quand on connaît l'histoire d'Ingenico, on peut aussi se poser la question sur les États-Unis, où c'est pour l'instant faible en termes d'activité pour vous, mais en même temps, on sait bien que ne pas être aux États-Unis, ou en tout cas ne pas être très très fort aux États-Unis, ça paraît impossible. Donc, à terme, vous devrez effectivement avoir cette stratégie et ce développement aux États-Unis. Comment il va pouvoir se passer pour vous ?
Alors, en réalité, ce n'est pas à terme. Le sujet est maintenant, puisque c'est une période qui est assez largement postérieure à la période où j'ai pris la direction d'Ingenico, puisque ça doit être Jean-Jacques Poutrel, le fondateur lui-même, qui avait fait l'acquisition d'une société qui s'appelait IVI Checkmate, qui était un assez gros fournisseur de solutions de paiement électronique en boutique aux États-Unis. Donc, on a capitalisé sur cette acquisition. Quand on a fait l'acquisition de Sagem Monetel, il a fallu repartir de zéro parce que ce n'étaient pas les mêmes operating systems, donc il a fallu refaire les processus de certification. Et aujourd'hui, enfin cette année, on a fait une très très belle croissance, de mémoire supérieure à 30 ou 35% sur les États-Unis, faisant de nous très clairement le numéro 2 sur le marché américain. Alors, plus petit, numéro 2, plus petit que le numéro 1 qui est Verifone, mais il n'empêche qu'on commence à exister. On a deux types d'activités aux États-Unis, une activité basée à Boston autour du paiement mobile qui s'appelle Roam, R-O-A-M comme le roaming, Roam Data, et qui fournit des solutions de paiement mobile, enfin au sens qui peut permettre de transformer, je montre alors peut-être que c'est pas…
Le smartphone.
Le smartphone que vous avez dans la main en terminal de paiement à travers la jonction d'un lecteur externe. Et on a une activité plus traditionnelle qui est basée à Atlanta, dans laquelle on a plusieurs centaines de salariés qui travaillent à la définition et à la mise sur le marché des solutions de paiement électronique, des terminaux de paiement électronique pour la grande distribution et pour le petit commerce organisé aux États-Unis. Et on a eu cette année de très belles satisfactions. On avait dit qu'on souhaitait doubler notre part de marché aux États-Unis en 3 ans. On est à mi-parcours et je pense qu'on va le faire.
Alors du côté des perspectives, on rencontre ici beaucoup de PME. On peut dire qu'Ingenico, c'est une PME de croissance. Alors il y a des opportunités, des risques aussi. On voit cette technologie qui évolue très vite. Pour vous, pour un investisseur qui s'intéresse à Ingenico, vous lui donnez des perspectives à moyen terme compte tenu justement de ce nouveau positionnement, de ces nouveaux marchés que vous avez évoqués ?
Oui, on s'est adressé au marché des investisseurs et d'ailleurs au marché tout court au tout début de l'année 2013, où nous avons donné un certain nombre de, non pas de prévisions, mais d'ambitions. Alors une ambition de chiffre d'affaires qu'on a estimé à 1,8 milliard à l'horizon de 2016, un niveau de profitabilité qu'on a estimé pas inférieur à 20% exprimé en termes d'EBITDA. On est parfaitement en ligne avec cet objectif. L'année 2013, on a procédé cette année à un désinvestissement, donc il y aura un petit exercice de comparable à faire, mais on aura une croissance très significative qui est de très belle qualité. Ce que je peux dire aux investisseurs qui s'interrogeraient sur Ingenico, c'est qu'on est probablement sur un des secteurs qui est, entre guillemets, un peu favorisé par la crise. Pourquoi ? Parce que s'agissant de la consommation, les consommateurs ont plutôt tendance à payer par carte pour éviter, pour avoir des, du débit différé et éviter les découverts en banque. Et vous voyez, on voit à travers nos outils de processing que le montant des transactions payées par carte est un montant finalement qui ne cesse de diminuer en valeur, parce que les gens ont plutôt tendance à utiliser le paiement électronique que le paiement cash. Deux, les États au sens large ont tout intérêt à avoir une économie électronique parce que c'est une économie qui permet de générer du paiement de la taxe. Je prends pour exemple ce qu'on a fait en Turquie, où on a développé à la demande du gouvernement turc une solution d'un terminal de paiement qui embarque une mémoire fiscale qui permet de garantir que le gouvernement, enfin l'État turc, sera capable de prélever le bon montant de TVA sur la transaction. C'était vrai en Chine aussi historiquement. Donc, on est, alors je ne sais pas si le mot crise a beaucoup de sens, mais on est plutôt un paiement vertueux. On est dans l'univers du paiement vertueux puisqu'on est une substitution au cash et que, évidemment le cash, pour des raisons que je ne commenterai pas, est moins générateur de revenus que le paiement électronique. Donc moi, voilà ce que je peux dire aux investisseurs qui s'interrogent. On est une société mondiale, on vend nos produits dans 140 pays, on a 39 ou 40 filiales, on a un équilibre sur lequel on travaille pour avoir un équilibre entre les transactions dématérialisées et puis le paiement en boutique. Les choses se développent bien, on a une politique d'acquisition, d'intégration qui marche pas mal, on est très exposé aux émergents, alors on peut dire que ça croît moins vite que ça croît, enfin bon, bref, on s'en contente. Le Brésil est le premier pays du groupe en termes de contribution aux revenus, le troisième pays du groupe est la Chine, les deux premiers plus gros clients du groupe sont des Brésiliens, enfin oui, je veux dire, moi je pense qu'il y a un message à faire passer, c'est que Ingenico, par ses stratégies successives, s'est mis en position de capturer la croissance là où elle est, géographiquement et technologiquement.
Eh bien, on suivra ça. Merci Philippe Lazard d'avoir été avec nous, PDG d'Ingenico.